Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, la Bible des Vers, poétesse et universitaire.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent la racine »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
L'esprit de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Aujourd'hui, littérature finlandaise. Un sac de couchage de Tuuli Reijonen. Tuuli Reijonen est née en 1904 et elle est morte en 1997. Avec ce texte, elle représenta la Finlande dans un concours de nouvelles qui fut organisé par le New York Herald Tribune en 1952, dans le but d'établir une sorte d'anthologie mondiale de la nouvelle de l'époque. Les éditions Gallimard publièrent alors un recueil sous le titre « Les 56 meilleures nouvelles du monde ». Un sac de couchage avait été primé. En voici le texte intégral, publié aux éditions de l'Élan. La nouvelle se répandit en traînée de poudre. Il y aurait une vente de surplus américain à Takakusto. Et les hommes affluaient vers le village, tout le long des pistes forestières, au-delà des chantiers de construction navale. Ils venaient seuls, ou à deux, ou plus, mais de toute façon, on ne parlait, on ne pensait qu'aux marchandises qui seraient mises en vente. De la bonne marchandise, certainement. Des articles de l'armée américaine, des vestes solides doublées de moutons, des bottes et des guêtres, des couvertures aussi douces que la toison d'un agneau, des sacs de couchage. Oui, c'était surtout les sacs de couchage. Nestori, parmi tant d'autres, avait décidé, lui en particulier, d'acheter un de ces sacs de couchage. « J'en veux un, » affirmait-il, en découvrant en un sourire la double rangée plantée au hasard de ses dents. Et pour prendre une contenance, il agrippait son brûle-gueule. « Je veux un sac de couchage !»« Pas de place pour autre chose, du moins pour le moment, dans la tête de Nestori. » On lui proposait des couvertures, vous savez bien, de ces couvertures qui sont douces comme la toison d'un agneau nouveau-né. Il ne voulait pas de couverture. « Mais regardez donc, voyez s'il n'y en a vraiment plus. Sous le comptoir, il doit bien rester un sac de couchage. Mais pas un rembourré de laine, ça, non. Un rempli de duvet. La doublure en toile, résistante, et qui se replie du haut. C'est ce qu'il faut si on veut avoir chaud et être protégé du gel et de la pluie. Mais vous êtes vraiment sûr qu'il n'y en a plus ? Regardez encore une fois pour voir s'il n'en reste pas un sous le comptoir, jusqu'à la réserve. Mais la vendeuse rousse, qui y est allée, revient, secoue la tête. Il n'y en a plus. Les cheveux lui en tombent devant les yeux, rouges comme une flamme. Elle a un mouvement gracieux qui les rejette en arrière. Nestori ne pense qu'à son sac de couchage. Mais il ne faut pas croire que les cheveux rouges, leur passage en flamme sur le visage de la vendeuse, lui aient échappé. Non. Cette image reviendra le hanter, alors qu'il aura quitté le magasin. Pour l'instant, il la supplie de faire encore un effort. « Regardez bien, je suis sûr qu'il y en a encore un. » Il insiste sur le pas de la porte qui conduit à la réserve. Malgré tous les efforts de la jeune personne qui sait bien qu'il y a un règlement et que les clients n'ont pas accès à la réserve. Et pourtant, le voilà bien, son sac de couchage, seul et unique de son espèce, mis de côté, comme s'il lui avait été spécialement réservé. Le patron n'était pas là, et bien qu'il n'y eût pas de prix marqué, la vendeuse voulut bien écouter Nestori qui la suppliait maintenant. « Donnez-le-moi ! Laissez-moi l'emporter !» Il est vrai qu'elle secoua la tête dans un geste de refus, et que pour la seconde fois la flamme rouge éclaira son visage. Mais Nestori avait déjà saisi l'objet et se refusait, comme un forcené qu'il était, à le lâcher, même pour qu'on l'emballât. Il se contenta de le rouler très serré et l'emporta sous le bras. « Merci, ça irait parfaitement ainsi. » Comme qui dirait « Il est à moi maintenant. » Et Nestori tire de sa poche un vieux billet, tout chiffonné, le déplie et le tend à la vendeuse rousse. « Ce n'est pas cher, ça vaut le prix, » lui dit-elle. Puis il éclate de rire, peut-être pas un rire très gracieux, un rire de corbeau enroué, encore plus que d'habitude. Mais la jolie rousse rit, elle aussi. Elle est ravie d'avoir radouci cet ours mal léché, bien qu'elle soit, en même temps, un tout petit peu inquiète au sujet de ce qu'il faudra raconter au patron pour expliquer la disparition d'un sac de couchage qui n'avait pas d'étiquette. Et d'ailleurs, s'il avait voulu le réserver, s'il l'avait mis de côté pour un client, il y aurait eu une étiquette. Du moins, c'était ce qui se faisait dans ce cas-là. Elle avait toujours entendu dire ça. Bien à l'abri, sur un petit chemin qui traverse le bois, Nestori ouvre son sac et l'examine, point par point, jusque dans les moindres de ses coutures. C'est vraiment un très joli sac, exactement celui qu'il rêvait d'acheter. Et Nestori prend l'étoffe dans ses doigts noueux, il en apprécie le lissé, la légèreté. Mais soudain, il s'inquiète. Le sac paraît tout petit pour un énorme gaillard de la taille de Nestori. S'il allait ne pas pouvoir y pénétrer, il s'éloigne un peu sous les arbres et se met dans le sac. D'abord, c'est un tout petit peu difficile et il lui faut dépouiller veste et sarrau. Mais ce moment d'inquiétude est vite dissipé. Le sac s'élargit, prend la forme de son habitant, et le capuchon s'adapte comme un gant autour de son crâne. Et la fermeture éclair glisse sans accroc. À peine une très légère hésitation, comme pour reprendre ses forces, et puis, de nouveau, très doucement, en avant jusqu'au terminus. Nestori est couché sur le dos, dans son sac, et il regarde le sommet des arbres. « Qu'on est bien, mon Dieu !» Il s'étire à faire craquer les coutures, mais les poings résistent à la poussée, et finalement, Nestori sort du sac, un peu surpris par l'effort, mais on doit s'y faire très vite. Et de toute façon, ce sac est bien à lui, et ce n'est pas mal. Il faut dire que Nestori est connu dans toute la région comme le meilleur, le plus rapide, le plus sûr des charpentiers. On l'appelle de village en village, de paroisse en paroisse. On reconstruit, en effet, et c'est tant mieux pour Nestori, qui va là où l'on fait appel à ses services. Maison ou cabane à lapins, peu importe, et pas de préférence. Premier là, premier servi. Nestori ne gaspille pas le matériau, il fait attention à son ouvrage. Il est avare de ses paroles, mais il serre la main avec force. Et Nestori met de l'argent de côté pour construire sa maison. D'abord, les gens qui ont vraiment besoin d'un toit, puis ce sera son tour. Et pas de femme pour le houspiller. Ah, ça, Mais non. Il arrive qu'on le blague là-dessus, mais il suffit que le plaisantin regarde Nestori à ce moment, qu'il voit l'expression qu'il prend, pour s'arrêter tout de suite. Nestori serre les lèvres, prend un air grave, ses yeux se rapprochent. Non, il vaut mieux ne pas parler des femmes à Nestori. C'est son point sensible, son point douloureux peut-être. Pourtant, il sait à quoi s'en tenir. Il sait ce que sont les femmes, ce qu'est la vie, ce qu'est la boisson. Mais aucune ne l'a vaincu jusqu'ici, et aucune ne le vaincra. Et il réussira à se construire une maison qui lui appartiendra. Il n'a pas besoin d'une femme pour ça. Non, merci. Très peu pour lui. C'est dans ces tournées de bourg en bourg qu'on a vraiment l'usage d'un sac, car Nestori préfère dormir dehors. Le grand air vaut mieux, estime-t-il, que les casernes grouillantes de vermine diverses ou les abris de planches qu'on a dressés au milieu des ruines. Oui, on est bien dehors. Il s'installe au pied d'un sapin altier, sur un sol bien sec. C'est capital, cela, de ne pas dormir dans l'humidité. Il se tortille dans son sac, tire la fermeture et regarde le ciel, tantôt nuageux, tantôt étincelant d'étoiles. Des lumières traversent le ciel, comme une mer de flammes, tremblantes et colorées, vertes et jaunes et rouge feu. Il ferme les yeux. Oui, rouge feu, comme la chevelure de la fille du magasin, le jour où il a acheté le sac de couchage. Elle a ri, et ses cheveux lui sont tombés devant les yeux. Des cheveux rouges, mais d'un rouge où il y a du jaune, de l'or, et du rouge, bien entendu. Les cheveux ne voulaient pas rester à leur place, et elle les rejetait en arrière. Elle avait des yeux rieurs, des yeux de la couleur de l'eau qui coule, avec un éclat vert, et, de l'entendre rire, c'était comme de découvrir de la mousse fraîche en plein été. S'il avait eu une femme comme celle-là à son côté, il l'aurait enveloppée dans son sac de duvet, tout contre lui dans la chaleur. Il lui aurait même abandonné le sac, à elle toute seule. Qui avait dormi dans ce sac, d'ailleurs? Et que pensait-il, celui-là, étendu comme Nestori l'était à présent? Il s'en exhalait une odeur curieuse, d'ailleurs, non, pas seulement l'odeur du simple duvet bien sec, non. C'était plutôt une odeur de rêve sans repos, l'odeur de la guerre. Cette odeur, Nestori la connaissait bien. Il avait fait la guerre, lui aussi. Mais tout cela, c'était de l'histoire ancienne, maintenant. Les rêves de ce soldat, dont on ne pouvait rien savoir, se mêlaient aux rêves de Nestori. Peut-être que lui aussi, l'autre, il avait connu des filles aux cheveux rouges. Il avait reposé dans ce sac, et il y avait songé à ces belles. Leurs chevelures, sans doute, flottaient le long de leurs épaules, faisaient une vague gracieuse, pareille à la courbe des arbres sous le vent, semblable à l'ondulation de l'eau du fleuve. Cela semblait si proche qu'il étendait la main au dehors du même sac, pendant son sommeil, pour caresser. Et maintenant, était-il mort, le guerrier inconnu? Où vivait-il en compagnie de son ami, dans les grandes villes d'au-delà des mers? Et songeait-il parfois à ces jours où, couché dans le sac qui maintenant était à Nestori, il avait rêvé? Et Nestori se met à penser à tout ce qui a été et à tout ce qui sera, et à la guerre et à la paix et au reste. Mais, après tout, qu'importe ce qui n'est plus? Un petit rouage dans l'immense mécanisme de l'univers ne compte pas. Tout ce qu'il peut faire, le petit rouage, c'est de poursuivre sa petite course et de tâcher à faire de son mieux, de s'en tirer comme on pourra s'en tirer, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur avec un peu de veine. Mais pour ce que ça a d'importance, un homme c'est si peu de choses dans le monde. Un humain agité à gauche ou à droite, ainsi. Dans ce grand creux pas très loin, l'été dernier seulement, il a trouvé deux corps en train de pourrir, que la guerre avait laissés derrière elle. L'épilobe poussait entre leurs doigts, rouge comme la flamme. Nestori s'endort, s'éveille, s'endort. Il sent les cheveux rouges qui lui caressent la joue, il voit les yeux rieurs, il se met à parler, s'agite, le sommeil le fuit. Quand il aura terminé le travail qu'il fait à présent, il pourra se remettre à la construction de sa propre maison. Il marchera jusqu'au bord du marais, où il a acheté un bout de terrain, et il commencera les travaux. Il vaut mieux que les fondations soient terminées avant le retour du mauvais temps. Il voudrait pouvoir emménager pour la Saint-Jean d'été. On vient le chercher des autres villages, mais il ne veut plus rien savoir. Il est devenu bien fier, disent les gens. Voilà qu'il refuse le travail maintenant. C'est que Nestori est en train de tracer ses plans, installé sur le bord du marais. La futaie s'éclaircit. On entend le choc des troncs qui s'abattent dans la clairière. C'est du bois fort qui sent la poix. Plus tard, quand il en aura le temps, il asséchera ce terrain spongieux. Quelle belle terre à labourer ça fera. Et à la Saint-Jean, qui est-ce qui l'amènera dans la maison? Qui, sinon la fille aux cheveux rouges, celle du magasin, et personne d'autre? Et les murs montant, les couches de bois se multiplient. Pas de planches, pas de bouche-trou, pour cette fois-ci, du solide, du meilleur. Il faut que ça tienne, il faut que ça dure au moins jusqu'aux 20 ans du petit-fils. Et cette terre, il veut la faire sienne. On dit dans la région que la terre défrichée se venge. Celle-ci ne se vengera pas, puisqu'elle aura affaire à un vrai mal. Ce n'est pas seulement pour son propre espace vital. Il y a les autres aussi. Après lui, il y aura son fils. Il sera habile de ses mains, ce garçon, bon ouvrier, comme son père, et les cheveux rouges de sa mère. Il essaie de faire passer sa soif avec des érelles qu'il va cueillir dans le marais. Il a voulu boire l'eau, mais elle a goût de boue et de reptiles, et elle est noire. Du poison. Il met les érelles dans sa casquette. Sur la terre, c'est un ruissellement d'or. Si seulement c'était de l'argent et non des feuilles mortes, on pourrait alors construire à sa guise. Mais à quoi bon le faire pour soi seul? Non, pour le garçon, quand il sera grand. Mais une simple maison lui suffit amplement. Ce n'est pas une vilaine maison, d'ailleurs. Il y aura du parquet dans la pièce principale. On ne verra rien de plus beau dans le village, ni en ville, d'ailleurs. Blanc comme l'os, uni et poli, sans un seul nœud. Et par-dessus, une belle couche de vernis. Du vernis qu'il ira chercher au magasin. Il demandera à la jolie rousse, à la vendeuse, s'il n'en reste pas un peu sous le comptoir ou dans la réserve, comme pour le sac de couchage. Comme si elle l'avait mis de côté pour lui, en particulier. Et le bois aura un joli ton rougeâtre, et on n'aura jamais rien vu de pareil ailleurs. Et quand il achètera le vernis, il en profitera pour demander à la jeune fille si elle ne veut pas venir visiter sa maison à lui. Et quand elle sera dans la maison, il lui demandera si elle ne voudrait pas y rester pour toujours. Et elle restera. Cela se voit dans ses yeux qu'elle voudra y rester. Personne d'autre. Il sent qu'elle voudra y rester. Et il ne doit pas se tromper. Quelle fille merveilleuse! On dit que les rousses sont des teignes. Mais pour celle-là, ce n'est certainement pas vrai. Il suffit de l'avoir vue une seule fois pour savoir que celle-ci, bien que rousse, a le meilleur caractère du monde et qu'elle est gaie. Comme elle avait les yeux rieurs ce jour où elle lui a donné le sac de couchage, ses yeux étaient comme une eau brillante qui vous attire. Et les copeaux s'envolent, légers comme la graine de chardon, suivent le vent, planent et retombent. Les portes et le châssis des fenêtres s'élèvent. L'âtre sera par ici, et par là, le lit, un lit merveilleusement doux, pour lequel il ira chercher des draps plus blancs qu'il est possible d'être blanc à la ville. Pendant la guerre, c'était introuvable. Mais maintenant, il paraît qu'on en trouve. Et dans ses draps de neige, elle pourra dormir contre son bras. Et sa chevelure s'étendra sur l'oreiller comme une grande flamme. Et la chambre aura l'odeur fraîche du bois, celle du marais et des érelles. Et on fera un édredon avec le sac de couchage, puisqu'il n'aura plus besoin d'un sac de couchage quand il aura un toit sous lequel abriter sa tête. D'ailleurs, même sans édredon, ils auront bien assez chaud. Et il ne voyagera plus de village en village comme il l'a fait jusqu'ici. Il faudra ramasser les graines cotonneuses qui poussent dans le marécage pour que ce soit encore plus doux. Et, en achetant les draps, il achètera bien aussi de l'étoffe de couleur pour faire le couvre-pied. Du coton, non, de la soie. Il n'y a que le chair qui soit bon marché, c'est bien connu. Et ils dormiront, l'un contre l'autre, blottis dans la chaleur du lit, comme des oisons dans un nid, seuls, tous les deux. Le samedi, à l'aube, Nestori se met en route à destination de Takakusto. Le toit s'achève. Le sac au dos, Nestori fait son apparition dans la boutique. Comme toujours le samedi, il y a foule. Nestori cherche la jeune vendeuse. Elle est là, exactement comme il l'imaginait. « Que ses mouvements sont légers !» Nestori attend son tour. Il ne cherche pas à passer avant tout le monde, comme certains. Il a tout son temps, et il lui plaît de regarder la jolie rousse à loisir. Elle ne devine pas pourquoi ce client est venu. Non, tranquille et sans hâte, elle poursuit sa tâche. Elle ne s'énerve pas. Elle sourit de temps à autre et parfois, comme lorsqu'il rêvait d'elle, elle a ce geste. Elle rejette les cheveux en arrière. « Voilà ! Elle l'a vu. Elle l'a regardé. » Non, elle le dépasse. Mais elle revient à lui. Elle le voit. Nestori s'entend dire « Bonjour !» d'une voix enrouée par-dessus la tête des autres clients. Et elle répond. Elle continue son travail, mais à chaque fois que son regard se pose sur lui, Nestori ressent comme un serrement, comme une main qui lui étreint le cœur. Il n'a jamais rien connu de semblable. Même quand il a tenu une femme entre les bras pour la première fois. Comme il est difficile de respirer dans ces conditions, et en même temps, il a le cœur qui soudain se met à faire un tic-tac de roue de moulin à eau. Et quand c'est son tour d'être servi, il est muet devant le comptoir. Muet ? Mais non. Il commande tout simplement ce qu'il est venu chercher, comme un client ordinaire, tout ce qu'il y aurait d'ordinaire, même pas ému. Du vernis, des gonds et des ferrures, des clous de 60 et de l'étoupe. Cette commande est en même temps une question qu'il pose. Quelle question ? Est-ce que vous vous rendez compte que je n'achète pas tout cela pour moi seul, ni pour n'importe qui ? Mais c'est pour toi. J'ai bâti une maison, et dans cette maison une pièce principale. Pas un centimètre carré de vieux bois, rien que du neuf, qui n'a jamais servi, de haut en bas. Elle a certainement compris. Elle s'est certainement doutée de quelque chose. Puisque, à son départ du magasin, elle a baissé la tête et lui a souri. Vraiment souri ? Ce sourire contient certainement une promesse. Le soir, il y a bal à la mairie. On le dit à Nestori, un de ses amis du village. Et la jolie rousse vendeuse du magasin doit venir à ce bal. Si bien qu'il décide d'y aller lui aussi. Et il ne part pas à la tombée du jour comme il en avait eu l'intention tout d'abord. Comme les autres, il va à la mairie. Il sort ce soir. Est-ce qu'un péquenaud de l'arrière-pays ne peut pas assister à la fête du village ? Pour une fois ? Les jeunes gens remplissent la salle. Nestori est poussé par la foule contre le poêle. il reste à regarder les autres qui dansent? Lui, il ne sait pas. Il n'a jamais appris. Et il a de la peine plein les yeux. Sa jolie rousse tourbillonne dans les bras d'un autre, un jeune et grand garçon, fringant cavalier. Il est penché en avant, le corps serré contre celui de sa partenaire. Nestori ne perd pas un regard. Il continue à tout voir une fois terminée la danse. Le couple va prendre l'air. Nestori les suit. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment il se fait que la jeune fille rousse soit avec quelqu'un d'autre alors que lui est ici. Puisqu'il est venu pour cette raison, pour lui parler, pour lui dire ses intentions. Bien sûr, il ne lui a encore rien dit, mais elle a certainement compris. Elle sait qu'il parlera incessamment. Elle lit dans ses yeux ce qu'il veut lui apprendre. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'elle lui a laissé le sac de couchage. Et elle a eu les yeux dorés et chauds. Elle a dû comprendre que ce n'était pas pour rien qu'il avait fait tout ce chemin. Il y avait d'autres boutiques plus près de chez lui. Non, il était venu pour elle, pour la ramener au logis. Et malgré cela, elle dansait avec un autre que lui. Et Nestori ne comprenait pas. Le couple s'était dénoué. Le cavalier et la cavalière étaient descendus le long de la rivière pour faire une promenade. Nestori entend le garçon expliquer qu'il va se rincer la bouche. Et derrière les buissons, on entend un tintement de bouteilles et des hommes en train de rire. « J'attendrai, » dit la jolie rousse. Et elle s'assied sur la rive. Nestori la voit. Il voit ses mains, son visage, ses jambes détendues sur l'herbe, ses jambes qui vont fouler le sol de la maison construite de ses mains. Il faut réellement qu'elle y soit dans cette maison pour la Saint-Jean-des-Foins. La fille sursaute en entendant un bruit dans l'ombre. Elle voit un homme qui la regarde, les yeux ardents. Il n'a pas l'air d'être un des hommes du village. Mais non, c'est l'homme qui, à l'automne, est venu au magasin et qui a acheté le sac de couchage qui restait, le sac sans étiquette. Elle s'en souvient distinctement. Un drôle d'homme. Il ne doit pas y avoir moyen de lui résister. Il ne dit rien. Il se contente de regarder. De vous regarder. Et il vous regarde encore. Et elle ne bouge pas, la jeune personne. Elle le regarde aussi, de son côté. En vain, elle veut parler. Mais les mots refusent de se former. Et lui ne parle toujours pas. Soudain, il s'approche d'elle, il vient de son côté, et il se met à bafouiller. Il prononce des mots étranges. Il parle de jambes et de parquets immaculés, et d'une maison qui n'existe que pour elle, et de ce sac de couchage qu'il a acheté chez elle. Et il a des mains comme des marteaux de forgeron, des mains énormes et fortes, mais douce aussi, au moment où il les place autour de ses chevilles et qu'il remonte doucement de ses doigts le long de sa jambe jusqu'au genou. Il a une main de feu, un vrai serpent de feu qui s'enroule. Et puis, l'enchantement est brisé. Elle se met à hurler, la vendeuse rousse du magasin où l'on achète un sac de couchage. Nestori se relève d'un bond et s'enfuit pesamment. Un bruit de course sur le sentier, c'est le jeune homme mince et blond qui accourt. La fille va vers lui et explique. « C'est un homme des bois, il est venu, il lui a caressé la jambe, c'est tout, puis il est parti à la course. Il disait toutes sortes de sottises. » Nestori prit ses jambes à son cou. Il ne ralentit qu'arriver au village, où il faut qu'il retrouve son sac. Il le hisse sur ses épaules, et en avant, le voyage continue, sans retourner la tête. La nuit est claire, pas de crépuscule, pas de demi-lumière, Ce sera bientôt la saison de la lumière dure, forte, meurtrière, qui fait mal aux yeux. Quand le soleil atteint l'horizon mais ne descend pas plus bas que celui-ci, mais remonte au contraire dès qu'il l'a atteint. Mais on n'en est pas encore là. Les nuits sont encore froides et humides et sentent le gel. Nestori a installé un poêle dans la chambre, un de ces poêles comme on en employait pendant la guerre, un de ces poêles qui dévorent tout ce qu'on leur donne. Il faut penser sans cesse à les nourrir. Heureusement que le bois ne manque pas. Les fenêtres sont encore sans vitres. Il y a tout le temps pour ça, rien ne presse. Il n'a pas eu le temps encore d'aller voir le vitrier. Il a placé du carton dans le châssis pour se protéger de l'air de la nuit ainsi que des moustiques. Par un trou rond, on aperçoit le ciel. Il pourrait le boucher, ce trou, mais il préfère le laisser ouvert. On a l'impression de respirer mieux. Et le poêle ronronne, la maison sent le bois frais. Il s'est préparé un petit coin sur un tas de copeaux. De derrière les feuilles de carton, le parfum de la nuit sur le marais envahit la pièce. Odeur verte et âpre et noire. Un oiseau crie, très haut. Les branches d'arbres craquent. Le vent doit être en train de se lever. Nestori introduit une nouvelle charge de débris de planches avec de la sciure dessus pour entretenir la flamme. Et il referme la porte. Mais le sommeil ne veut pas venir. Le sommeil, à l'inverse des autres soirs, ne veut rien entendre. Nestori songe à la Saint-Jean-des-Foins et à sa maison tiède et brillante. L'homme est ainsi fait qu'il soupire après un foyer. On ne peut rien changer à cela. Et lui-même, il a construit des maisons tant et plus pour les autres, et rien du tout pour lui-même. Non, 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 non. Il n'y en a plus pour très longtemps. Il aura une maison à lui, qui sera prête, peut-être avant la Saint-Jean, avant la date fixée. Le poêle est rouge cerise. Une petite étincelle en a jailli, a sauté sur les éclats de bois répandus sur le sol. La petite étincelle sautille, gambade, communique sa gaieté au cercle de petits bois alentour, et danse, légère comme le sommeil, transparente comme le brouillard sur le marais. Elle avance et recule, suit le plancher, monte jusqu'au dormeur, puis s'arrête, comme pour sortir. Mais, aussitôt, reprend des forces comme le vent souffle par la fenêtre. Comme le feu est heureux quand il a repris sa liberté, il bondit, éblouit, sourit, craque avec une joie sauvage, s'étend comme la chevelure d'une femme qui rit. La jolie rousse. C'est bien la jolie rousse qui est près de lui. Ses cheveux mêlés aux siens, elle lui touche les bras, elle lui touche la figure. Qu'il fait chaud ici. Le bonheur et la douleur l'étouffent en même temps. Nestori entr'ouvre les yeux. D'abord, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. La fumée l'étouffe et l'étourdit. Le jour se lève déjà. Puis il tombe en pleine réalité. Il reprend conscience, comme si on était en train de le couper en deux. Ses mains s'affairent autour de la fermeture éclair, comme des centaines de fois auparavant. Il s'est rendu compte tout à coup qu'il se trouvait au milieu d'un véritable océan de flammes. Il veut se redresser, écarter les coudes, de façon à faire éclater le pesant sac de couchage, le déchirer pour libérer ses épaules. Mais la double toile à voile ne cède pas. Le duvet colle à sa peau, telle une armure d'acier. Il redouble ses efforts, ses mains s'accrochent à la fermeture, il ne trouve pas la glissière, rien à faire. Ciel! Va-t-il mourir étouffé à cause de cette sottise? La chevelure de la jolie rousse lèche ses joues. Il fait une chaleur d'enfer. Les doigts de la jolie fille lui serrent la gorge. La jolie vendeuse est dans le sac de couchage à côté de lui, serrée contre lui, si près. Il savait bien qu'elle finirait par venir le rejoindre. Est-ce déjà la Saint-Jean des Foins? Mais pour quelle raison veut-elle le tuer? Pourquoi l'étrangler? La bouche sur la bouche, il ne peut plus respirer. Nestori aspire à grand effort, cherche un peu d'air frais, en vain. Il ne veut pas mourir, il veut vivre, maintenant qu'elle est là, enfin. Il hurle et cherche à arracher le sac pour se libérer de celui-ci. Mais le sac n'entend pas le lâcher. La fermeture résiste. Les dents sont les unes dans les autres, exactement comme prévu. Une de ses dents, une seule, est un tout petit peu plus dure que les autres. C'est qu'elle s'est légèrement tordue quand on a tiré. La glissière accroche à cet endroit, et elle ne veut pas lâcher. Le métal est bon, l'acier résiste. L'homme a beau s'évertuer, tirer et tordre. Il finit par s'épuiser. Rien à faire, la fermeture ne cède pas. Elle est solide, c'est de l'acier américain, garanti. Vous venez d'entendre Un sac de couchage de Tuuli Räjönen, une nouvelle finlandaise de 1952.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger ou nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.